Alors, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à cette deuxième saison des figures marquantes de notre histoire. Deuxième saison qui sera donc consacrée aux figures marquantes de l'histoire de Montréal. Avec le 375e anniversaire de Montréal, une telle orientation, évidemment, s'imposait. Pour cette première édition, nous commençons en force et en beauté, avec celles qu'au 19e siècle, on appelait les filles à marier, mais qui sont inscrites dans notre imaginaire collectif comme les filles du roi, puisqu'elles étaient prises en charge par le roi Louis XIV, au 17e siècle. Selon les recherches les plus récentes, celles notamment menées par Yves Landry, grand chercheur, démographe, qui a fait une thèse de doctorat sur le sujet, qui a publié de nombreux travaux, elles seraient 764 qui auraient traversé l'Atlantique de 1663 à 1673. 764. Des orphelines, des femmes d'origine modeste, des femmes qui ont traversé l'Atlantique dans des conditions qu'on imagine très difficiles. Des femmes aussi qui ont découvert un pays qu'elles ne connaissaient absolument pas et qui ont rencontré des hommes qui allaient devenir leurs maris qu'elles connaissaient encore moins. Des femmes qui ont défriché un pays. Des femmes aussi qui ont donné naissance à beaucoup d'enfants, près de 5000 selon nos dernières estimations. Les filles du roi ont évidemment beaucoup intéressé les historiens depuis toujours, mais elles ont aussi beaucoup intéressé le public, qui a toujours été fasciné par ces filles du roi. Et c'est pour ça que plusieurs de ces passionnés ont décidé de créer une société d'histoire des filles du roi en 2010. Cette société d'histoire des filles du roi est à l'origine d'un projet absolument fantastique. Peut-être que vous avez pris connaissance de ce projet. Elles ont reconstitué l'arrivée des premières filles du roi, celles de 1663, pour commémorer donc le 350e anniversaire de leur traversée. Donc, 36 Québécoises se sont portées volontaires pour incarner ces femmes du roi. Et plusieurs d'entre elles sont parmi nous. On leur souhaite la bienvenue. Ces femmes, ces bénévoles, ont donc été reçues à Paris. Elles ont été aussi reçues à La Rochelle, le port d'où plusieurs d'entre elles sont parties pour la Nouvelle-France. Ensuite, elles ont été accueillies à Tadoussac, à Québec et même à Montréal par des milliers de curieux, par des passionnés qui voulaient mieux comprendre, durant l'été 2013, le destin de ces filles du roi. Pour nous raconter cette incroyable odyssée, pour nous expliquer, pour nous permettre de comprendre qui étaient ces femmes, d'où elles venaient, leurs origines sociales, leurs caractéristiques, eh bien, nous avons décidé d'inviter une des fondatrices de la Société d'histoire des filles du roi. Cette femme a pris sa retraite en 2006, et depuis 2006, elle est très, très occupée, puisqu'elle fait de nombreuses conférences sur ce sujet qui, vous allez le voir, la passionne énormément. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Mme Danielle Pinsonneau. Bienvenue. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation.
Ça me fait grand plaisir.
On va régler tout de suite une question d'expression. Là, j'ai dit filles à marier, mais elles sont inscrites dans notre imaginaire comme les filles du roi. Quel est le bon terme et qu'est-ce qu'il faut dire?
Le surnom qu'on leur a donné, qui a traversé le temps jusqu'à maintenant, oui, et qui a imprimé sa marque indélébile, c'est « Filles du roi ». Mais c'était pas avec ce nom-là qu'elles arrivaient. Quand elles arrivaient, elles étaient des filles à marier, en 1663 et années suivantes, comme celles qui étaient arrivées plus tôt, dans les années 40, à Montréal, tout ça avec M. de Maisonneuve, Jeanne Mance, etc. On disait « filles à marier », parce qu'elles étaient libres de se marier, elles pouvaient être veuves ou très jeunes, prêtes à se marier. Mais dans le fond, ce qui caractérise ces 764 femmes dont vous parliez tout à l'heure, arrivées sur 11 années après décision de Louis XIV, vers 1698, vers la fin de sa vie, Marguerite Bourgeois écrivait ses mémoires, ou enfin sa vie, tout ça. Et c'est elle, semble-t-il, on n'était pas là, qui a décidé que comme le roi Louis XIV avait agi comme un père envers elle, il avait payé une dot pour qu'elle puisse se marier, venir ici en Nouvelle-France, Et comme aussi on appelait les enfants qui étaient les enfants orphelins en France, qui étaient dans des institutions d'État, on les appelait les enfants du roi. On sait qu'il y en est venu, grosso modo, 228, 250. Puis on parle du tout début, là, dans les années 34, quand on est arrivé, Robert Giffard et d'autres. Puis même, bon, on le sait, là, Louis Hébert était là avec sa femme et ses trois enfants en 1717.
Mais c'était une famille.
Bon, maintenant, il n'est pas venu beaucoup. Mm-hmm. Quand même Maisonneuve est arrivée avec Jeanne Mance, il y avait très peu de femmes. Mm-hmm. Il y en arrivait une ou deux. C'était vraiment une par une, pratiquement. Mm-hmm. Mais par contre, dès que la colonisation a vraiment plus commencé avec l'arrivée des Guyon, Zacharie Cloutier, Nicolas Bélanger et beaucoup d'autres, eh bien là, on voulait des main-d'œuvre masculines. On avait besoin de maçons, de charpentiers, de cuisiniers, de bûcherons. Alors, tous les gens dont on avait besoin, c'était des hommes. On disait, la vie n'est pas faite ici pour des femmes puis des jeunes familles. Mmh. Bon, Louis Hébert l'avait fait, mais on disait, on verra ça plus tard. Donc, pendant très longtemps, c'est à peu près que des hommes qui venaient ici parce qu'on avait besoin d'une main-d'œuvre masculine. Mmh. On s'apercevait en même temps, plus petit à petit, que bon, mais la population se croissait pas beaucoup. On continuait à demander des gens à nouveau au roi de France. Le roi de France qui disait, ben oui, mais on va pas vider la France pour envoyer des gens en Nouvelle-France. Faites quelque chose vous-même, là. Mais a fallu Pierre Boucher, qui est allé en France, qui était le gouverneur de Trois-Rivières, a fallu Pierre Boucher et ensuite plusieurs autres qui sont allés en France pour dire au roi et demander très précisément, envoyez-nous des filles à marier. Mm-hmm. Comment vous voulez qu'on fasse des couples, des familles, qu'on aille défricher des forêts complètes si on a juste des bûcherons, mettons? Mm-hmm. Il va bûcher, le monsieur, mais on ne fera pas des familles, on ne fera pas un pays avec ça. Il y avait plus que ça en plus, c'est que beaucoup de gens qui étaient dans les plus connaisseurs, je dirais, ils savaient bien que juste au sud, en Nouvelle-Angleterre, là, ils grossissaient dans ce qui est devenu Boston, New York, des communautés qui, alors que nous, on avait 2500 habitants tout et partout ici, en Nouvelle-France, qui avaient déjà 50 000 personnes en 1641, en Nouvelle-Angleterre. Et il y allait être 80 000 en 1663. Ça, là, ça créait de la peur parce qu'on disait, un beau jour, on va être envahi. La France et l'Angleterre étaient toujours en conflit. Bien, il y avait toutes les chances du monde que ça s'amène dans les colonies. Donc, on avait peur à l'invasion. Et puis, on se disait, on n'est pas capable, nous autres, ici, de se défendre. On va se faire bouffer tout cru. Alors, c'est toutes ces questions-là qui ont été débattues. Puis, il semble bien que M. Colbert, qui était le ministre des colonies, a été un de ceux qui a beaucoup parlé de ça avec le roi. En tout cas, finalement, le roi prend deux décisions majeures en 1663. Il dit, c'est fini que ce soit des compagnies marchandes qui viennent en Nouvelle-France, qui devaient amener des colons, mais qui ne les amenaient pas la plupart du temps, et que ce soit juste des gens qui font du commerce, qui s'occupent du développement de la Nouvelle-France. Terminé. On déchire tout ça. Et maintenant, on va instituer un conseil souverain. La Nouvelle-France va être une province comme on a d'autres provinces en France. Et c'est moi qui vais régner via un gouverneur, d'autres gouverneurs, un intendant, etc. Mm-hmm. Et là, on va s'occuper de la Nouvelle-France. Première décision. Deuxième, on va envoyer des filles à marier. Et ça a commencé dès 1663. Louis XIV venait de commencer sa vie publique. Et il avait 21, 22 ans. Et c'est comme ça qu'il a pris des décisions majeures. On s'en rend compte maintenant qu'ils ont sauvé la Nouvelle-France.
Absolument. On dit en général, je l'ai présenté comme ça, mais je pense que c'est comme ça aussi que Yves Landry, le spécialiste, vous dites 11 traversées. À peu près 10, 11 ans.
11 ans.
Il en vient 764.
C'est ça.
Puis après ça, c'est terminé. Comment ça se fait que ça se termine aussi abruptement?
Bon, c'est sûr qu'on sait qu'à un moment donné, Jean Talon aurait envoyé une missive en France qui prenait 4-5 mois avant de parvenir là-bas. Là. Ouais. Mais disant qu'il pensait que là, rendu en 73, on devait être capable de s'organiser avec les gens qu'on avait. Mais en fouillant beaucoup dans un livre sur le 17e siècle, là, beaucoup sur Louis XIV, j'ai découvert que à cette époque-là, dès 69 d'ailleurs, le roi puis M. Colbert avaient comme un peu décidé qu'il va falloir contenir cette Nouvelle-France-là. Il y avait plein de découvreurs là, qui étaient prêts à ouvrir des nouveaux chantiers. Là, hein? Plein. 10 ans, là, ça va nous coûter trop cher, ça demande trop de monde. Il va falloir contraindre ça. En même temps, Louis XIV est devenu un gars qui avait le goût de faire la guerre. En 1669-70, il commence à penser, ses chevaliers le poussent à envahir la Hollande, à attaquer la Hollande. Ça prend une marine de guerre. Ils n'avaient pas de marine de guerre qui valait le mot. Ça prend une marine de guerre, puis ça y prend 200 hommes en armes sur le terrain. Ça prenait énormément d'argent. Alors, le roi Louis XIV a mis ses billes dans un autre projet. Mm-hmm. Ça n'a pas éteint tout de suite la venue de filles, mais ça commençait comme ça. Mm-hmm.
Ça s'est tari, c'est comme si la source...
Ça s'est tari, ouais. Voilà. Mm. Et ça a fait que j'ai pris quelques notes. Bougez pas que je retrouve mon petit papier. J'ai trouvé la... Comment je dirais ça? C'est la décision qu'ils ont prise. Je ne les retrouve pas là. Ils ont décidé qu'on allait demander plus d'efforts du côté de la Nouvelle-France. Vous allez inciter les jeunes à se marier plus jeunes, 16 ans, 14 ans pour une fille. Vous allez demander aux soldats et à ceux qui sont démobilisés parce que leur terme est arrivé, le plus possible de rester en Nouvelle-France au lieu de les retourner en France. Vous allez empêcher les trappeurs et puis les coureurs des bois de continuer leurs affaires. Vous allez arrêter ça. Puis vous allez les amener à se prendre une terre, eux autres aussi, puis à travailler sur la terre. Bref, toutes sortes de mesures pour faire en sorte qu'on ait moins besoin d'envoyer de gens.
Moins d'éparpillement sur le continent.
Leurs coffres sont à sec. Mm-hmm. Et puis la guerre, ça va durer 6-7 ans. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai compris que les décisions majeures de tarir tranquillement et mm-hmm. d'arrêter ce programme, c'est comme un programme mm-hmm. du fédéral, hein? Ça commence, ça finit, on ne sait pas trop quand. Bien là, il y avait de très bonnes raisons... Ouais. De par chez lui, puis ouais. par le fait qu'il voulait faire une guerre à la Hollande. C'est la raison majeure.
Une fois qu'on a pris cette décision, donc autour de 1662-63, la décision est prise, on envoie des filles à marier.
C'est ça.
Comment on les recrutait concrètement? Comment ça se faisait, le recrutement des filles à marier?
Bon, le chef recruteur, c'était Colbert, ministre des colonies. Il y avait toute une gamme de personnes qui travaillaient avec lui. Et on s'est dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des... C'est pas des termes qu'on est habitué d'utiliser ici, mais les hôpitaux généraux, mm-hmm. c'était des lieux pour recueillir des gens qui sont dans la rue, puis sont dans la misère, et puis c'était pas pour soigner des hernies et tout ça, là.
C'est un peu des itinérants, voilà. Des vagabonds.
Donc, on va aller dans les hôpitaux généraux, on va aller dans les maisons de charité, ou même dans certains hospices, et il y a là, dans certains endroits, des nombres de femmes et de jeunes femmes qui peuvent plus survivre parce que le père est décédé, ou des fois même les deux parents sont décédés. Ces femmes-là sont dans un endroit tenu par des religieuses avec un peu d'argent qui vient de l'État, elles seraient peut-être prêtes à partir pour le Nouveau Monde. Mm-hmm. Alors, on envoyait des gens, beaucoup, aller parler de cette offre-là du roi dans des maisons comme à la Salpêtrière à Paris, la Pitié-Salpêtrière, qui était un endroit où on recueillait beaucoup de gens qui étaient dans la dèche. Il mm-hmm. faut dire que c'est une société où il y avait énormément de pauvres. Mm-hmm. C'est une société où il n'y avait aucune espèce de mesure sociale pour, comme on a eu ici au début, les mères nécessiteuses ou peu importe, mm-hmm. de sorte que beaucoup, beaucoup de gens étaient extrêmement mal pris. Et pour les vieillards, on disait, ils mendient dans les rues, c'est un danger public. Alors, on avait des ailes pour les vieillards, pour les jeunes, mm-hmm. etc. Mais on a fait en sorte aussi de trouver un espace pour les jeunes femmes et leurs jeunes filles, mm-hmm. pour pas qu'elles soient violées dans les rues. Oui. Et on est allé offrir... Ce nouveau programme d'immigration de Louis XIV dans ces endroits-là.
Et ces jeunes femmes, est-ce qu'il y avait des critères de sélection?
Oh que oui. D'abord, on voulait des femmes fortes, saines, qui étaient libres de se marier, parce que là-dedans, il y avait des veuves aussi, qui étaient mm-hmm. récemment veuves et qui avaient des fois un jeune ou deux jeunes. On voulait que ce soit des femmes qui aient une bonne industrie de leurs mains, comme on disait là, dans la langue du temps. On voulait aussi que ce soit de fervente catholique, surtout pas de protestante. Hein? Il s'en est glissé pareil. Mais si on apprenait qu'ils étaient protestantes, comme il y a eu des hommes également, bien, il fallait qu'ils renient leur foi et tout le Bataclan. Mm-hmm. Et ça prenait des femmes qui étaient prêtes à venir former des familles, se marier et faire des enfants. Et il ne fallait pas qu'elles soient trop désagréables à regarder.
Oui, en effet. Robuste et agréable à regarder.
C'est ça.
C'est texto, une lettre de Jean Talon à Colbert. Oui. S'il vous plaît, envoyez-nous des femmes.
Voilà. Oui. Puis souvent, les premières venaient surtout de villes où il y avait de ces hôpitaux généraux, comme à Paris, Rouen, La Rochelle et autres. Eh bien, à un moment donné, Jean Talon a trouvé que les femmes qui venaient, bien, ils venaient bien trop des villes. Puis misère, ils ne savaient pas traire une vache. Mm. Puis ils ne savaient pas s'occuper des cochons, puis ça posait des problèmes. Mm-hmm. Alors, il a demandé que plus de femmes, maintenant, soient choisies plutôt dans les grandes campagnes. Il y avait les curés qui les aidaient aussi pour faire du recrutement. Là. Il y a oui. Il y a eu un curé à Paris, dans la paroisse Saint-Sulpice, qui en a recueilli je ne sais pas combien. Là.
Qui en repérait.
Qui en repérait beaucoup. Il connaissait ses paroissiennes.
C'est ça.
Et il pouvait même aller dans les familles et dire, écoutez, madame, votre mari est décédé. Hein? Pensez-vous, ça pourrait être une bonne chose pour vos deux filles, là, etc. Et il a trouvé.
Vous n'avez rien
ça.
À leur donner.
Il y avait, voilà. Ça. Donc, ça ouais. pourrait être une solution.
Maintenant, une question que souvent on entend. Est-ce que ces femmes, une fois qu'elles étaient sélectionnées, imaginons qu'on repérait un certain nombre de femmes, qu'on trouvait qu'elles avaient tout le profil de l'emploi, bonnes catholiques et tout, est-ce qu'elles étaient contraintes? Est-ce qu'elles étaient obligées de venir ou est-ce qu'elles étaient quand même libres de choisir de venir ou pas?
Quand on était en France en juin 2013, il y avait des débats de spécialistes là-dedans. Entre autres, on a parlé de ça.
Oui.
Certains disaient, quand on regardait la manière dont c'était écrit dans la langue du 17e...
Parce qu'il y avait des contrats à chaque fois là, avec ces
oui.
femmes.
Et puis, dans la manière dont c'était écrit, souvent, on disait, bon, le roi Louis XIV demande ou exige, mettons, que tant de femmes viennent de la Salpêtrière. On sentait là-dedans un ordre.
Un quota.
Un quota, mettons.
Ouais.
Là, on disait, bien, les pauvres filles, là, ils sont mal foutus d'essayer de dire non, là. On les a recueillis dans les rues, puis maintenant, on les aide, puis comment dire non au roi? Par contre, d'autres soulignaient que, bon, la manière de parler du temps... Si on analyse ça en 2013, avec notre vision de maintenant, on ne prend peut-être pas ça de la bonne façon. Ce que moi, je crois comprendre, c'est qu'avec les données qu'on a maintenant, la grande majorité des gens considèrent que la totalité, ou presque, ont voulu partir.
Étaient consentantes
à partir. Et je pense qu'il y a bien des raisons pour ça. Ces femmes-là qui étaient dans un orphelinat, bien, on ne disait pas orphelinat, mais en tout cas, maison de charité ou ce que vous voulez, elles n'avaient plus de parents. Elles ne pourraient pas se marier. Pour se marier, il fallait une dot. Pour avoir une dot, il faut un papa. Là, le papa n'est plus là, ou bien le papa il était très pauvre.
Elles étaient orphelines de père dans beaucoup de cas.
Dans beaucoup de cas, souvent même des deux parents. Alors, comment se marier autrement? Ça veut dire que moi, je vais rester là, entre ces quatre murs, pour faire peut-être de la broderie, puis faire des petits travaux d'aiguille pour des madames chics de la ville. Mais je vais passer ma vie là-dedans. Et même si je me disais, est-ce que je vais peut-être rentrer chez religieuse? Mais je pense que ça prenait une dot pour rentrer chez religieuse aussi. Bref, quelle espèce de voie il leur était réservée à elles? Elles étaient sur une voie de garage, c'est le cas de le dire. Et là, ils voyaient une possibilité offerte par ce programme du roi de peut-être avoir une vie meilleure là-bas. On leur offrait... On allait payer le passage du bateau. Je ne sais pas si elles étaient au courant de quel genre de bateau ils auraient.
Sans photo.
Alors, on allait payer leur trajet. Le roi disait, je vais vous donner une dot. Il leur donnait une petite cassette avec des aiguilles, des épingles, quelques cornettes, un petit trousseau. Ben, ça rentrait dans une petite boîte comme ça. Et puis, rendu là-bas, ben, l'intendant va vous aider à vous installer pour le premier hiver. Ça prend des vêtements d'hiver. Ils ne sont pas arrivés avec leur sac de farine et tout ça, donc on va lui donner des munitions pour passer le premier hiver. Donc, vous allez quand même être soutenus pendant la première année, un peu, tout ça. Comment on dit non à ça? Quand on sait qu'on n'a pas d'avenir dans le pays où on est, et même si on n'est pas dans un de ces orphelinats, si on est dans une famille pauvre qui n'arrive plus à rien, Yves Landry nous racontait, l'historien des Filles du Roi, qu'il a trouvé à quelque part qu'il y avait des gens... Qui allaient vis-à-vis les recruteurs et qui demandaient. Pourtant, ils étaient là père et mère. Mais ils disaient, on est tellement pauvres. Partez avec nos deux plus jeunes, celles qui ont 12 et 13 ans. Qui sait, on sera peut-être même plus vivants. Demain, on n'a plus rien à manger. On va mourir. Partez avec les deux plus jeunes. Au moins, ils vont peut-être survivre là-bas. Alors, c'était une situation... Dans le fond, je pense aux gens qui immigrent encore de maintenant. Je pense à tout ce qu'on connaît, là, des gens de la Syrie ou d'ailleurs... qui émigrent dans l'espoir d'une vie meilleure. Moi, je pense que c'est exactement la situation dans laquelle elles étaient.
Maintenant, essayons de tracer une sorte de profil de ces femmes-là, avec ce qu'on sait, avec ce que la recherche a pu montrer. Premièrement, est-ce qu'elles étaient toutes françaises?
Presque.
Ces filles du roi?
Presque. Mais on sait maintenant, on sait très bien qu'il y en a eu bon, au moins une qui était allemande, une qui était suisse, une qui venait du Portugal, une autre... J'oublie tous les lieux, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Elle se compte sur les doigts d'une ou deux mains.
D'accord.
Mais le reste, c'était toutes des Françaises et qui ne venaient pas non plus de toutes les provinces françaises.
Non. De quel coin elles venaient en général, en moyenne?
Pour beaucoup,
oui.
Elles venaient de la région de Paris et tout ce qui l'entoure, qu'on appelle l'Île-de-France, qui comprend quelques autres petites provinces, là, le Brie, bon, nanana. Et dans ce coin-là, la majorité viennent de ce coin-là. Puis elle venait de villes particulièrement, où il y avait ces institutions, où on les gardait. Mm-hmm. Ensuite, il y en est venu beaucoup du Perche, de la Normandie. Le Perche, mm-hmm. d'ailleurs, avait fourni énormément de colons qui étaient déjà venus en Nouvelle-France
avec
auparavant.
Robert Giffard, le seigneur.
Avec Robert Giffard, Zachary ouais. Cloutier, et mm-hmm. Guyon et tous les autres. Donc, tout ça faisait que de cette région-là, toute l'Île-de-France, Normandie, évidemment aussi, il y a Poitou... Puis, quand on arrive du côté de La Rochelle, là, dans la Saintonge, mm-hmm. l'Aunis, il est venu beaucoup, beaucoup de monde aussi de cette région-là qui touchait l'Atlantique. Mm-hmm. Mais là-dedans, par contre, dans ce lot-là, beaucoup, beaucoup sont venus de Paris puis venaient de maisons de charité, comme, mm-hmm. comme la Salpêtrière, justement, peut-être jusqu'à 40 % de filles qui sortaient de la Salpêtrière.
Et ça, c'est un fait intéressant et important puisque ça expliquerait en partie l'unité linguistique.
Bien, voilà. Parce que ces provinces-là, je ne parle pas des provinces sur le bord oui. de la mer, mais tout ce qui était autour de Paris, c'est une région où déjà on avait adopté pour beaucoup les prescriptions qu'on voulait avoir pour avoir un français qui devienne une langue qui serait la langue du pays. Mm-hmm. C'était loin d'être très développé encore. Mm-hmm. Mais beaucoup, beaucoup des filles qui sont venues et qui ont été des mères de famille ici venaient de là. Mm-hmm. Donc elles parlaient déjà, ou en tout cas elles étaient coutumières de cette langue qui amalgamait tous ces patois qu'il y avait un peu partout. Et puis pourtant, comme dit Yves Landry, souvent, ils ont marié même un gars qui venait de la Provence ou qui venait de la Guyenne. Lui, il ne parlait pas le français, mais peut-être aussi, dit-il, que le français avait déjà fait plus de chemin qu'on le croyait. Mm-hmm. Parce qu'ils allaient même marier quelqu'un qui venait de très loin du coin de pays d'où elle venait elle-même. Mm-hmm. Et comme c'est les mères qui élevaient les enfants puis qui ont passé la langue à leurs enfants, bien, ça a fait que c'est la langue qui s'est imposée et tous les autres patois se sont rapidement fondus dans cette langue française qui a fait que la Nouvelle-France, tout le monde parlait français en Nouvelle-France, alors que ça a pris encore 100-150 ans avant que les gens en France, mais qui, eux, avaient grandi dans leur patois et tout, on voit comment c'est long à faire.
Quel âge ils avaient en moyenne?
24 ans. Mais ça, c'est la moyenne. Il y en a qui arrivaient à 13 ans.
13 ans?
Il y en a qui arrivaient à 40 ans. Même certaines qui ne devaient plus être en âge de faire des enfants. Par contre, moi-même, pour avoir posé la question à M. Landry, il m'a répondu, par exemple, pour une en particulier, « Ben oui, mais dit, pourquoi pas? » Surtout dans les premières années. 1663, c'est la première année. Il dit là, il n'y avait pas de règlement écrit, eux autres, sur des grands papiers qui étaient arrivés par courriel. Là. Donc, les recruteurs savaient un peu les principes qu'ils avaient à tenir. Mais enfin, ça s'est peut-être égaré un petit brin. C'est devenu plus systématique dans les années qui ont suivi. Mm-hmm. Mais il dit, une femme qui va arriver, puis qui elle-même ne peut plus faire d'enfants, mais qui épouse un veuf qui en a 7, mettons qu'elle va faire un bon travail.
Oui.
Puis il dit...
Il reste d'être occupé.
Et puis, il dit en plus, il va faire une femme heureuse. Qu'est-ce qu'on a à dire contre ça?
Est-ce que, socialement, est-ce que c'était presque toutes des femmes assez pauvres ou est-ce qu'il y avait de différentes échelles quand même parmi ces femmes qui parce qu'il y avait quand même des administrateurs, des officiers de la... Peut-être que ces hommes-là souhaitaient des femmes de leur rang.
Oui. Dans celles qui sont venues dans le programme des filles du roi, là, du roi Louis XIV, on dit que près des deux tiers, c'était des femmes venant de milieux modestes, peut-être même pauvres.
Oui.
Et qui étaient orphelines. Mais l'autre tiers... Il y a eu des femmes, certainement, qui venaient de la petite bourgeoisie, dont le père était un marchand bien accompli, peut-être même un petit peu plus bourgeois, mais ça n'a pas été la majorité.
Donc, pour ces femmes-là, la Nouvelle-France était une aventure.
C'était une aventure. Une expérience. Et puis, on leur réservait souvent aussi de pouvoir marier quelqu'un là-bas qui est capitaine de milice ou qui a un rôle dans avec les soldats de ceci ou de cela. C'est sûr qu'on disait que c'est des femmes d'une plus haute qualité, donc elles pourraient marier un monsieur de plus haute qualité. Mais la grande majorité, c'était des orphelines pauvres, mais des femmes d'honneur. C'était des femmes travaillantes, c'était des femmes qui étaient prêtes à retrousser leurs manches puis à se faire une nouvelle vie. Et on n'avait pas besoin de leur dire, vous allez travailler dur, les filles. Elles le savaient.
Elles s'en doutaient. Est-ce qu'on sait la proportion de celles qui savaient lire ou écrire?
Pas facilement. Non. On sait que pour chacune des filles, M. Landry nous indique si elles savaient signer.
Oui.
Bon. Mais signer ne veut pas dire qu'on sait lire et écrire.
Non, c'est ça.
On le sait, il y a des colons qui savaient signer avec des entourloupettes comme ça, là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savaient lire et écrire. Personnellement, moi, je ne suis pas capable de donner un chiffre
d'accord.
sur celles qui savaient lire et écrire, mais on peut présumer que celles qui ont été plusieurs années dans un couvent ou un endroit où, tenu par des religieuses, ouais. qu'on pouvait leur montrer vraisemblablement des choses du côté de la lecture et de l'écriture, ouais. si elles pouvaient rester là suffisamment longtemps pour acquérir un bon bagage.
Alors, écoutez, j'écoute votre description. Et par A plus B, on en déduit assez clairement qu'on n'a pas affaire à des femmes issues, disons, qui étaient des prostituées. Hein? C'était la question...
Je suis donc contente de vous entendre dire ça.
Ben non, mais par A plus B, parce que c'est le titre d'un ouvrage de Gustave Langteau, hein? « Fille de joie ou fille du roi? » Parce que cette question-là a longtemps hanté notre mémoire collective. Étaient-elles des femmes de mauvaise vertu qu'on avait envoyées en Nouvelle-France un peu pour s'en débarrasser? Je pense que la démonstration est assez claire maintenant.
Et maintenant, on sait fort bien que si elles avaient été des femmes, mettons, à la cuisse légère, etc., elles auraient eu des maladies vénériennes. On a trouvé la pénicilline dans le courant du 20e siècle. Ben des rois sont morts de maladies vénériennes, ça touchait tout le monde. Hein? Comment ces femmes-là auraient fait pour faire en moyenne 9 enfants puis jusqu'à 18? Parce qu'une femme qui avait des maladies vénériennes comme ça, elle devenait stérile. Eux, ils voulaient des femmes qui allaient procréer et faire un nouveau pays. Alors, ils n'étaient pas fous à temps plein, j'imagine. Ils ont dû penser que si ces femmes-là avaient été des femmes de petite vertu et qu'elles risquaient de ne plus pouvoir enfanter dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas elles qu'ils auraient envoyées en Nouvelle-France. Et maintenant, on sait très bien que, juste par nos petites connaissances en médecine, que quand on voit qu'aussitôt débarqué de France, 10 ans plus tard, il y avait près de 5 000 enfants qui avaient été mis au monde.
Pourtant,
elles avaient fait leur preuve que c'était impossible. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas une ou deux qui a pu courir la
guerre. Il y en a eu dans d'autres colonies, par ailleurs, de France. Oui. Ça, on le sait. Mais comment expliquer que cette idée-là se soit imprégnée dans la mémoire collective?
Ben, dans mes lectures, j'ai découvert... Moi, je ne suis pas historienne, mais je lis beaucoup d'écrivains, des historiens. J'ai lu que... D'abord, il faut se rappeler que la société française, à l'époque, était extrêmement hiérarchique. Et puis qu'il y avait bien des niveaux que je ne serais pas capable de tout dire dans l'ordre, mais que les gens qui étaient dans les plus hauts niveaux de la société regardaient les autres qui étaient plus bas d'en haut. Et qu'on avait souvent de fois des opinions assez arrêtées d'avance sur les strates inférieures. Or, prenons juste les gens de la bourgeoisie qui voyaient ces filles-là sortir d'une maison de charité, d'un hospice, etc., qui sont des filles pauvres, qui sont des filles orphelines, on devait avoir une opinion facilement toute faite sur ces femmes-là.
C'est vrai, parce que, bon, on ne connaissait pas leurs origines.
Puis nous autres, on sait que même celles qui sortaient des villages, etc., il fallait que le curé leur donne une lettre de bonne mœurs avant de prendre le bateau. C'était exigé avant de prendre le bateau. Parce que pour dire, tu es une bonne chrétienne, je connais tes parents, tu as été baptisée, nanana. Donc, tout ça fait en sorte que, moi, je pense que pour beaucoup... Puis cet historien, dont j'oublie le nom, là, disait « ça a commencé en France, ces affaires-là.
Ouais.
C'est pas venu d'abord.
Préjugé.
C'est pas venu d'abord de M. Lahontan lui-même. Ça a commencé là. » Et Louise Dechêne, quand elle parle dans ses écrits, a dit souvent à quel point on avait des opinions mesquines sur les gens qui étaient d'une strate sociale plus basse que nous. Bien, ça a fait du chemin, ça, jusqu'ici aussi. Et je pense, et même quand Louis XIV a accepté d'envoyer des repris de justice, hommes et femmes, dans les Antilles françaises, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre là-bas, dans la canne à sucre, au lieu de les garder dans les prisons, bien, il y avait des femmes marquées au fer rouge là-dedans. Et on disait même, à certains moments, on disait, on les envoie en Amérique. Bien, l'Amérique, là, le Canada, l'Amérique, la Nouvelle-France,
les Antilles,
tout ça, c'est bien confus. Puis là, on disait, on les envoie dans les îles françaises d'Amérique. Quelle Amérique? Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion.
Il y a eu de la confusion.
Beaucoup de confusion là-dedans. Et puis, bien, notre monsieur Lahontan, il arrive après, il écrit son livre en 1703.
C'est ça, on parle d'un personnage qui est venu à la fin du 17e siècle, le baron de Lahontan, qui a écrit ses mémoires. Et dans ses mémoires...
Il n'a pas inventé ça.
C'est ça, exactement.
Il est parti sur son air d'aller.
Il a repris ce préjugé dans ses mémoires que les femmes, les filles du roi étaient des femmes de basse vertu. Mais quand on lit l'histoire naturelle de la Nouvelle-France de Pierre Boucher, même lui explique à Colbert que ce ne sont pas des filles... Donc, ça veut dire que ce préjugé-là existait déjà bien avant...
Les jésuites, dans leur relation, révélaient à tout moment Marie de l'Incarnation. Maisonneuve lui-même, plusieurs disaient et réaffirmaient...
Que ce n'était pas le cas.
Ce n'est pas ça, c'est pas vrai.
Donc, c'est très ancré.
Mais c'est comme des, je sais pas, moi, certains textes d'Allopolis. Je crois bien que ça fait du chemin et ça dure longtemps.
Heureusement, il y a des images en moins. mais une fois qu'elle était choisie, sélectionnée, décrivez-nous d'où elle partait, puis décrivez-nous la traversée.
Prenons le premier contingent. Le premier contingent, c'est le seul qui est parti de La Rochelle. Tous les autres sont partis de Dieppe, au nord. Beaucoup de filles partent de Paris, de Rouen, etc. Elles ne sont pas motorisées, hein, on se comprend? Alors, elles marchent, les filles sont à pied, sont toujours chaperonnées, évidemment, avec des gens qui les entourent tout le long. Elles marchent, ou bien elles sont dans des carrioles, dans des charrettes tirées par un animal. Et elles s'en vont comme ça, elles descendent jusqu'à La Rochelle. Quand elles traversent des rivières où il y a des grandes gabarres, là, ces grands bateaux plats, où on peut loger plein de monde, puis descendre la rivière pour un bon bout, elles étaient sur des gabarres à certains moments. Mais c'était les trois moyens de transport qu'elles avaient, à pied, en charrette ou parfois sur une gabarre dans une rivière tranquille. Et ça prenait des semaines et des semaines avant d'arriver à La Rochelle.
Ouais,
mettons
ça.
À La Rochelle.
Ouais.
Et là, le bateau ne partait pas demain. Le bateau, il fallait que toutes les munitions soient entrées dedans. Puis ensuite, il fallait attendre le bon vent pour décoller. Alors, en attendant, elles étaient encore là, chez les religieuses. Bon, entre autres, à La Rochelle, il y avait les sœurs de Saint-Joseph qui devaient les accueillir. Et elles attendaient patiemment que le bon vent se lève pour qu'on puisse partir pour la Nouvelle-France. Donc, elles étaient toujours entourées, toujours avec des gens de confiance. On devait même leur faire faire plein de prières et puis peut-être même leur enseigner certaines choses sur la vie qu'elles attendaient là-bas. Mais elles n'étaient pas, elles n'étaient jamais laissées seules.
Non, d'accord.
On voulait que ces filles-là arrivent, c'est plate à dire, là, mais je pense qu'ils voulaient que le butin arrive en bonne condition à l'autre bout.
Oui, oui. Et la traversée, le bateau.
Oh, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est vraiment pas drôle. C'était des bateaux, souvent, qui étaient des bateaux pour faire la guerre. Là, ils mettaient des provisions, mais on pensait jamais qu'une traversée pouvait prendre 4 mois non plus. C'était normalement 2 mois, 2 mois et demi.
Oui, parce que la première a été particulièrement...
Moins 3 jours, 4 mois.
Imaginez, là.
Ils sont partis vers le 19 juin, puis sont arrivés le 22 septembre. Il n'y a pas grand monde qui serait capable de faire ça, je pense, avec le tonus qu'on a maintenant. Ce qui arrivait, c'est qu'aussitôt montés, on les amenait dans un espèce de deuxième ou troisième sous-sol du bateau, qui s'appelait la Sainte-Barbe. Pourquoi la Sainte-Barbe? Parce que Sainte-Barbe était patronne des canonniers et que quand il n'y avait pas de monde sur le bateau, c'était l'endroit où on mettait les canons, les boulets de canon puis les munitions. Puis c'est les canonniers qui étaient là. Or, quand il amenait tant de monde que ça en Nouvelle-France, bien, on enlevait les canons pour ce voyage-là. Donc, on était dans cet étage-là. C'était pas fait avec des belles cabines, etc.
Avec petites terrasses.
Trois étoiles, terrasses dehors. dans le fond, c'était très, très sombre. C'était pas haut. Il y avait quelques couchettes par terre. Dans certains bateaux, il y avait des hamacs. Il semble que plusieurs devaient dormir tête bêche, deux dans un même petit lit très étroit. D'autres fois, dormir à tour de rôle parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les familles complètes au centre. Et là, une fois que tu es sorti de la rade de La Rochelle puis qu'on prend la mer, oh là là, là, on se rend compte que c'est pas drôle. Et qu'il y a des vagues, et qu'il y a des tempêtes, et que tout est dangereux. Puis on a une fichue de peur de rencontrer des Anglais ou des pirates. Mm-hmm. Parce que là, ça veut dire qu'on risque d'être happé, puis même perdre la vie, ou être amené en Angleterre, on ne sait pas où. Tout ça fait en sorte qu'ils passent une vie à manger piètrement. Rapidement, on n'a plus d'eau ou l'eau est gaspillée. On boit ça en se bouchant le nez, puis mettant un peu de vin pour que ça
l'eau
passe.
L'eau est gâtée.
L'eau est gâtée. L'eau, oui. L'eau pourrissait.
Oui. Ça explique aussi pourquoi beaucoup de marins buvaient de l'alcool, parce qu'il n'y avait plus d'eau.
Eh bien, voilà. Et puis, la nourriture, ben, c'est toujours pareil. C'est du poisson séché, du poisson salé, des pois, des fèves séchés.
Pas beaucoup de menus. Le menu n'est pas très varié.
Fruits et légumes, c'est pas long qu'il n'y en a plus, hein, même s'il y en avait au départ. Et puis, il reste des biscuits de marin, qui sont durs comme du bois, puis qu'il faut tremper dans l'eau ou dans le thé pour venir à bout de mettre ça dans la bouche pour pas y perdre ses dents. Ça, pendant 4 mois, là, il y a de quoi rendre quelqu'un malade. Ensuite, les gens sont en grande promiscuité, tout collés les uns sur les autres. Et il n'y a pas d'eau pour se laver. On arrive à Québec avec le linge qu'on avait en partant. Et là, on a vomi parce que des maux de cœur, puis là, le bateau est ballotté, c'est le cas de le dire. On vomit, on change les bébés, on ne peut jamais se laver. C'est poisseux, avec l'eau de mer, tout devient poisseux, c'est humide. Et on a les ronflements, les borborygmes de tout le monde. On vient tout coller les uns sur les autres. Puis il y a des animaux à l'étage inférieur. Cochons, poules, veaux, vaches, cochons. Alors imaginez l'atmosphère de vie qu'il y avait là-dedans et qu'on ne peut pas se laver et qu'on manque d'eau même pour boire. Il y a eu plein de maladies qui sont développées, le scorbut, bien sûr, mais plein d'autres maladies dangereuses. Alors, juste dans ce premier voyage, sur 225 personnes qu'il y avait dans le bateau, il y en est mort 60 en s'en venant. Et qu'on fait une petite cérémonie, puis évidemment... Et puis, en arrivant à Québec, on en sort 12 sur des planches parce qu'ils ne sont plus capables de marcher. On les amène à l'hôpital, mais ils meurent, ces 12-là aussi. 72 personnes qui meurent sur 225 personnes d'un bateau, c'est le quart de la population. On ne peut pas appeler ça la croisière s'amuse.
Est-ce que... toutes ces filles du roi débarquaient toujours à Québec. Comment ça se passait à l'arrivée?
Oui, débarquaient à Québec, même dans les années précédentes, on n'allait jamais plus loin que Tadoussac. Mais rendu dans ces années-là, on prenait des guides amérindiens à Tadoussac et on se rendait jusqu'à Québec, mais on ne voulait pas aller plus loin, c'était trop dangereux pour les bateaux. Mmh. Elles débarquaient toutes à Québec. On jetait l'ancre, il n'y avait pas de quai organisé comme on connaît maintenant. Et là, c'est... Bon, ils étaient reçus par les gens du Conseil souverain, le curé, tout ça. Et on montait chez les Ursulines, qui recevaient le groupe, s'ils étaient capables d'accueillir tout le groupe. Ou sinon, il y en avait qui allaient dans des familles qui avaient été choisies au préalable, des familles bien choisies, qui allaient pouvoir faire ce que les religieuses faisaient avec les filles du roi. D'abord, on arrivait maigres, sales, épuisées, pas mieux que mortes, comme on dit parfois. Donc, il fallait que ces filles-là puissent se laver, avoir un nouvel habillement, manger comme du monde, dormir comme du monde, pour être capable de se remettre sur pied. Donc, c'était les premières semaines, c'était ça. À partir du moment où elles étaient remises sur pied, celles qui restaient à Québec, on ne sait pas d'où vient le nombre, ni la date, ni où ça a été décidé, mais c'est les deux tiers des filles qui devaient rester dans la région de Québec. C'était la région la plus populeuse. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'il y avait le plus d'hommes, puis il fallait qu'on ait beaucoup de femmes qui restent dans ce coin-là. Les autres... quand elles étaient remises sur pied, elles aussi, on prenait des barques ou des canots, puis des hommes de confiance les amenaient vers Trois-Rivières et vers Montréal.
Et à Montréal, la maison Saint-Gabriel, parlez-nous un peu de...
Ben,
a joué un rôle...
C'est Marguerite Bourgeois elle-même, peut-être pas à chaque arrivée, mais oui. C'est Marguerite Bourgeois elle-même qui souvent était là pour aller chercher les filles qui débarquaient à Montréal. À Trois-Rivières, qui est encore une bourgade encore plus petite, puis il n'y avait pas de communauté religieuse, donc c'est Pierre Boucher qui gardait les quelques filles qui débarquaient à Trois-Rivières dans sa maison à lui. Mais vraiment, il y a eu Marguerite Bourgeois qui s'est beaucoup occupée des filles qui débarquaient à Montréal jusqu'à temps qu'elles se marient. Dans le fond, un peu comme les Ursulines faisaient aussi à Québec, où les femmes qui gardaient ces jeunes femmes, on les amenait rencontrer des hommes qui voulaient se marier à un endroit X.
Justement, parlons-en de ça. Ça, c'est une phase qui m'intéresse
beaucoup.
Ça vous
intéresse?
Oui. Ce que j'appellerais la phase du flirt.
Oh boy! Non, ce mot-là n'existait pas à l'époque. Ni en français, ni en anglais.
Comment se passe cette fameuse... Parce que là, écoutez, là, en 63, les chiffres, quoi, 12, 14 hommes pour une femme en Nouvelle-France?
On disait que c'était de 6 à 14 hommes pour une femme, dépendant des lieux.
Oui.
Mais comme c'était très populaire dans la région de Québec, probablement qu'on avait le 14.
On avait le 14 à Québec. Comment ça se passe concrètement? Comment on organise ces rencontres? Et premièrement, concrètement...
D'abord, on ne trouve pas d'écrit là-dessus.
Non.
On ne sait pas où c'était, puis on ne sait pas après combien de jours. Il fallait toujours bien que les filles soient remises sur pied.
Ben oui.
Et Louis XIV leur avait promis que c'est elles qui choisiraient leur mari. Là, c'est un privilège qu'il n'y a pas grand monde qui avait connu avant, ni en France, ni nulle part.
Et ça, c'était texto dans le contrat. J'étais libre de choisir...
C'était clair et net qu'elles choisiraient leur époux. Je ne l'ai pas vu écrit à nulle part.
Oui.
Mais tous les historiens nous ramènent certitude. Alors, pour être capable de choisir leurs époux, il fallait qu'une journée X, on puisse, je sais pas, avec un cornet, ou en tout cas aviser tout le monde que, je sais pas, moi, tel dimanche, tel samedi, ils peuvent venir à la maison du gouverneur ou à la maison de l'intendant. Ou...
Puis venez voir le nouvel arrivage.
Non. Venez rencontrer des jeunes femmes qui veulent se marier.
Oui,
voilà.
C'était mieux dit.
Puis certainement pas toutes à la fois, etc.
Non.
Et avec des chaperons tout le tour.
Ah oui, hein?
Pas question de se bécoter. Je pense qu'on ne pouvait même pas se toucher les mains, d'après moi. Mais on pouvait se parler, se regarder dans les yeux. Mm-hmm. Mais ce monsieur, il peut nous dire n'importe quoi.
Ben voilà.
Lui, là, il veut se marier.
Oui.
Il peut nous chanter la pomme comme il veut. Marie de l'Incarnation nous disait, les filles, prenez pas le premier venu. Prenez le temps de regarder. Choisissez un homme bien portant. Puis autant que possible, s'il y a un autre métier à part habitant, ça pourrait être un bon choix. Prenez votre temps. Mais il y en a qui ont choisi vite parce qu'au bout d'un mois, ils étaient mariés. Mmh. Il fallait passer par le contrat de mariage puis le notaire, évidemment. Il y en a d'autres qui ont pris jusqu'à 5 mois pour choisir. Et peut-être que c'est celles-là qui ont choisi une fois ou deux fois, trois fois.
Oui, justement. Parce que ce qu'on sait, c'est que certaines femmes ont dit oui à une première, à une ou deux, ou dans les premières
rencontres. Oui, puis devant le notaire, mettons.
Donc, l'homme, exactement, il y a eu une sorte d'engagement. Mm-hmm. L'homme avait bien vendu sa salade. Et là, la femme arrive dans la maison ou dans la terre de l'homme. C'était pas exactement ce qui avait été...
Et ça, elle arrive pas là avant d'être mariée.
Non, hein?
Oh non.
Alors pourquoi?
Il ne faut pas penser qu'elles vont se promener dans les bosquets non plus avec.
Non, c'est pas ça que je sous-entendais là.
D'accord.
C'est pas ça que je sous-entendais. J'en ai aucun doute. Non, mais il y a des femmes qui ont dit oui, puis ensuite qui ont dit non.
Bon.
Alors comment expliquez-nous?
Il est fort possible, même si on n'a pas d'écrit là-dessus, que une même personne pouvait venir à ces rencontres-là, une même femme, qui était chez Mme Gagné ou qui était chez les Ursulines. Il y a une autre rencontre un autre samedi, puis elles vont voir. Puis tout à coup, elle trouve que tel autre bonhomme, oh, il a déjà sa terre. Puis sa cabane est commencée. La religieuse avait dit, oh, puis si sa cabane est commencée, c'est un bon parti. Parce que là, l'automne approche, les neiges vont commencer à tomber. Comment est-ce qu'on va faire si on se marie au mois de novembre? Puis que 3 semaines après, la neige tombe, on n'a même pas encore de cabane. Alors, elle leur dit, ce que ces filles faisaient à ce moment-là, elles décidaient finalement, je serais mieux avec celui-là. Elle retournait chez le notaire, puis elle disait, déchirez donc ça. On va faire un autre contrat avec lui. Bien, il y en a qui ont fait ça 3 fois, mais c'est
trois
pas
fois.
La majorité. C'est pas la majorité. Mais moi, je sais pas. Mais comme elles n'avaient pas beaucoup de monde pour leur donner des conseils, je suis pas sûre qu'elles ont mieux choisi au 3e contrat qu'au premier. Puis c'était pas des mariages d'amour non plus. Hein. Faut
ben
pas,
justement,
faut bien se
mais
le
ça c'est, que... c'est vrai qu'on est dans une autre époque. Mais même... même des historiennes du 20e siècle nous disent que l'idéal amoureux est quand même assez récent.
Je n'étais pas là. Dans le fond, il fallait se marier si on voulait faire des enfants. Fait que c'était le passage obligé.
Oui, donc ça fallait un homme fiable et puis, qui, comme on dit, bien portant. Et...
Bien portant, puis qui avait le sens du travail. Puis si en plus, il y avait un métier qui pouvait faire un autre métier en complément, on pouvait facilement être un cloutier ou un maçon tout en ayant sa terre. Bon, ça peut-être un petit peu moins vite sur la terre, mais... Mais c'est évident que ça leur prenait... Ils voulaient se marier. Il y en a 32 qui ne sont pas mariés sur les 764. Mm-hmm. Il y en a qui sont retournés en France très vite. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas aimé le climat, je ne sais pas. Mais il fallait qu'elles soient fortes pas mal pour entamer une deuxième traversée, par exemple.
Ouais.
Il y en a qui sont peut-être qui ont décidé de faire comme Jeanne Mance et puis travailler pour le bien-être des gens, mais sans se marier. D'être sage-femme comme ça... Sans se marier,
donc, vous nous dites, en gros, parce que dans moi, je me souviens que quand j'ai découvert les filles du roi, on faisait des blagues, on disait, en 2 semaines, elles étaient toutes mariées. Mais non, c'était entre 1 mois et 5 mois. On va dire, c'est pas beaucoup, là, on se comprend, mais c'était un peu plus long que 2 semaines. Entre 1 mois et 5 mois, en moyenne, que ces femmes étaient mariées.
Mais il y en a même qui se sont mariées, des fois, jusqu'à 4 ans plus tard. Parce que si, par exemple, je prends le cas, par exemple, de Catherine Moitier, qui est venue en 1663, elle avait, je pense, déjà négocié comme un contrat. Elle allait être femme de maison, travailleuse de maison, pour 4 ans dans une famille à Montréal. Mais tant que tu es sous contrat, tu ne peux pas briser ce contrat-là pour te marier et t'en aller. Mm-hmm. Donc, dans ces cas-là, la fille du roi en question s'est mariée plus tard. Mais il y en a qui arrivaient, mettons, à l'été telle année, puis elle allait se marier en janvier ou en février. Mm-hmm. Les raisons, on ne sait pas trop.
Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est peut-être parce qu'elles attendaient d'en trouver toujours un meilleur.
Oui, oui, oui.
Ou bien, elles lui demandaient de construire la cabane avant de dire oui, je ne sais pas.
Faites épreuve. Maintenant, il y a un petit détail qui m'a frappé dans le livre de Yves Landry, c'est que la grande majorité de ces filles du roi n'ont pas épousé des Canadiens, donc des fils ou des fils de qui étaient nés dans le pays, mais ont surtout marié des Français.
Bien, d'abord, des Canadiens qui étaient nés ici, il n'y en avait pas des masses.
Non, ça, c'est sûr, il n'y en avait pas beaucoup.
Et ceux qui voulaient plus se marier, bien, il y avait beaucoup plus, certainement, de Français qui étaient venus ici à titre d'engagé, pour ouais, 36 mois, comme on disait.
Les premières générations.
On les surnommait même souvent des 36 mois. Ils faisaient leur contrat et après, on les incitait à rester. Mais on allait leur donner une terre si ils se mariaient.
Ah oui.
Or, se marier avec qui?
C'est ça.
Il y avait très peu de femmes ici qui étaient en âge de se marier. Alors, ils espéraient qu'arrivent des filles à marier. Donc, aussitôt qu'il y en arrive...
C'était une course à étapes. Tu voulais ta terre, tu voulais te marier.
C'est ça.
Ça prend une femme, mais là... Bon.
Et il y en avait beaucoup de ces engagés qui s'étaient acclimatés, effectivement, pendant les 3 années, et qui étaient prêts à rester. Mm-hmm. Surtout qu'on leur proposait une terre. C'était un cadeau extraordinaire, ça. Ces gens-là n'auraient jamais eu une terre en France.
De cette taille, en tout cas.
De cette taille, puis qui leur était donnée, s'il vous plaît. Oui. C'est une terre en bois de bout, on se comprend. Il y a du travail à faire là-dessus, beaucoup.
Oui.
Mais à vous, puis on disait, vous allez pouvoir la léguer à vos enfants.
Oui,
ça ne se faisait pas en France. Les terres appartenaient toutes à des seigneurs qui les gardaient pour eux autres.
C'est ça. C'était, la richesse était liée à du bien, à de
c'était
la terre.
C'était de la terre.
C'était pas un compte de banque.
Et on ne laissera pas nos enfants tout seuls dans la rue le jour où on va partir. On aura de quoi leur léguer.
Maintenant, le mariage se fait. La lune de miel est assez courte.
Si on parle de lune de miel.
Comment se passe, je vous parle pas, comment se passe la première année, les premiers 6 mois? Hein, on parle de ces mariages avec des hommes qui avaient des terres en bois de boue, comme on disait à l'époque. Comment ça se passe?
Bon, la majorité des femmes se mariaient à l'automne. D'abord, les bateaux arrivaient été, début d'automne, le temps des fréquentations du mariage. Dans certains cas, s'il y a quelqu'un qui peut leur trouver de la place pour l'hiver, parce que partir en plein hiver, en début d'hiver, pour s'en aller sur une terre où il n'y a même pas de cabane, c'est extrêmement dur, surtout qu'on leur disait que c'était un hiver pas possible, qui dure 6 mois, etc. Mais il y en a déjà qui avaient leur terre et qui avaient commencé à construire une terre avec promesse de se marier dès que possible. Donc, il y en a qui avaient une cabane. Admettons que c'est vous, puis vous n'avez pas de cabane. Mais vous vous mariez, je ne sais pas moi, mi-octobre. Ce qui presse là, le plus, c'est aussitôt rendu sur la terre et vous n'avez qu'une hache. Il faut bien savoir ça. C'est de couper des arbres, enlever les branches, faire un carré de maison, 15 par 20, grosso modo, 15 pieds par 20 pieds, et piquer ces arbres pour faire les 4 côtés. Il y a des ajours là-dedans, hein, c'est sûr. Faire un toit avec des écorces, la majorité du temps, on prenait des moitiés d'écorce comme ça, puis une autre moitié d'écorce par-dessus, puis on faisait deux pentes comme ça. Là, une fois ça fait, au moins, il ne nous pleut pas sur la tête. Tout de suite après, il faut faire une porte puis au moins une fenêtre, du côté qui n'est pas le nordais, qui n'est pas le vent dominant. Et il faut faire un âtre, cheminée, pour être capable de survivre minimum. Plancher de terre battue. On n'a pas le temps de s'occuper de faire des planchers. Et ces maisons-là, normalement, sont faites pour être une maison temporaire, mais le temporaire a pu durer jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans dans certains cas. Parce que l'important, ce n'était pas de se faire une maison plus belle, c'était de se dépêcher à défricher le terrain pour pouvoir gagner notre pitance, pour survivre.
Ben oui, ben oui.
Et de se faire un potager à côté de la maison, parce qu'on leur donnait des graines venues de France, qu'elles gardaient comme un trésor d'une année à l'autre. Même ma grand-mère faisait encore ça, de garder ses graines d'une année à l'autre. Et puis, ben, fallait venir à bout, enlever les souches le plus possible, la broussaille, tout ce qu'on est capable, mais les grosses souches immenses, là, ils se mettent autour des souches. Ça pouvait aller jusqu'à 10 ans avant que la souche crève et qu'on puisse l'arracher de là et se faire un terrain qui va être suffisamment bien dégagé, qu'on va pouvoir faire des sillons là-dedans et planter le blé absolument nécessaire. Ces gens-là mangeaient énormément de pain. Puis ensuite, ça prenait de l'avoine, ça prenait d'autres céréales aussi pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux. Il leur aurait pris, pour tout le monde, il aurait fallu qu'ils aient une paire de bœufs pour tirer, etc. Mais ils n'avaient pas d'argent.
Non.
Ils arrivaient avec rien dans les poches. Et la dot que peut-être à peu près 40 % des filles ont eu la dot, paraît-il, officiellement, C'était pas en argent sonnant et trébuchant, là. C'était de la nourriture puis quelques affaires pour commencer la vie. Donc ensuite, il fallait se dépêcher et il devait travailler jour et nuit à défricher le terrain. Mmh. Et ce qui arrivait, j'ai trouvé un petit bout de texte dans Louise Deschênes que j'ai envie de vous lire. Ben, enfin,
allez-y.
Elle dit, sa première tâche à l'habitant en question est d'abattre ce qu'il faut d'arbres pour construire sa cabane de pieux d'environ 15 pieds sur 20. Les petits arbres qu'il aiguise et boue à un bout et plante en terre. C'est une construction assez frustre, sans plancher ni cheminée, mais qu'il faut rendre suffisamment étanche pour pouvoir y passer au moins un hiver. Il utilise des écorces et des herbes, il se fait un toit de chaume la plupart du temps, et pour boucher les fentes. Au bout de 3-4 semaines, on peut mettre des choses dans la petite cabane, apporter des provisions, mais il faut la finir avant l'hiver. Ça veut dire qu'il faut faire une porte, une fenêtre, acheter des vitres, il y en avait, mais ça coûtait, c'était hors de prix. Ce qu'on pouvait prendre, c'était un papier parchemin qu'on huilait et qu'on mettait dans l'ouverture de la fenêtre, qu'on cloutait comme il faut, et ça laissait passer un peu de lumière. Mmh. Une seule fenêtre, et ensuite l'âtre. Et imaginez qu'une fois qu'on a cet âtre, l'hiver s'approche, un âtre, ça ne chauffe pas très bien, même les foyers modernes, dans bien des cas. Mmh. Les chercheurs disent qu'ils mettaient des branches de sapin, peut-être une peau d'animal, et les 6 mois d'hiver se passaient devant le foyer, pour toute la famille.
Et c'est dans ces petites cabanes-là que les filles du roi ont accouché. Alors, parlez-nous de ces accouchements. Comment ça se produisait? Je veux dire, c'est quand même... Elles ont été extrêmement fertiles, beaucoup d'enfants.
Oui.
Comment se produisaient ces accouchements?
Premièrement, j'ai été très surprise de découvrir que dans les hôpitaux, la place des femmes, et des femmes qui allaient accoucher ou des femmes qui avaient accouché des enfants, ça n'avait pas de place à l'hôpital. Ça devait être l'affaire des sages-femmes. Mmh. Or, pendant longtemps, il n'y en a pas eu. Il en est arrivé une en 1665, un autre à un moment donné. Mais s'il y en avait une à Québec, elle n'était pas à Donnacona, elle n'était pas à Trois-Rivières non plus. Même pas à l'île d'Orléans. La plupart du temps, les femmes accouchaient seules. Imaginez un premier accouchement. C'est nouveau pour tout le monde. Elles accouchaient seules, elles accouchaient devant le foyer, devant l'âtre, si c'était l'hiver. On dormait devant l'âtre et tout, et tout, et tout. Les femmes ont perdu plusieurs enfants, fatalement. Il y avait des problèmes d'enfants qui viennent de naître. Avec les Amérindiens qui nous donnaient tous leurs trucs sur les connaissances de plantes qui peuvent guérir, bien sûr que ça pouvait aider certaines personnes qui avaient ramassé des feuilles, trouvé certains éléments qui pouvaient nous aider à guérir des maladies. Mais on ne pouvait pas sauver un enfant comme ça. Et beaucoup de femmes, j'ai vu, moi, dans un cahier que l'abbé Létourneau possède à Saint-Jean de l'île d'Orléans, il m'a laissé son cahier, et on voit que souvent des femmes, l'enfant est né, mettons, le 10 de mars, bien souvent, le 20, le 22 mars, la mère décède. Elle mourait de fièvre puerpérale, qu'on dit mm-hmm. maintenant. Or, il n'y avait personne pour soigner ça, la mère venait de partir. Le monsieur se retrouvait tout seul avec 1, 2 ou 3 enfants. Mm-hmm. Les accouchements étaient certainement... comme c'était en France à l'époque, sûrement. Mais d'abord, c'était connu des femmes, mais là, elles étaient toutes seules. Maman n'était pas avec elles. Les voisines étaient loin. Chaque terre avait 3 arpents de large. Et les gens construisaient souvent sur la largeur où c'était proche du fleuve, parce que le fleuve était le seul chemin. Il n'y avait aucune route. Alors, ça pouvait être un arpent, là, c'est 192 pieds anglais. Bon. C'est loin avant d'aller chercher la madame de là-bas, qui n'a peut-être jamais accouché elle non plus. Mais peut-être qu'à 2, ça va aller mieux. Donc, elles accouchaient tant bien que mal, seules, avec une voisine, peut-être parfois avec une femme amérindienne qui lui donnait un coup de pouce. C'était la vie difficile. Elles ont perdu beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes sont mortes en couche.
Alors, le temps file. Combien de femmes, c'est quoi l'estimation, d'enfants plutôt sont nés de ces filles du roi? Est-ce qu'on a une estimation?
Bien, Yves Landry lui dit 4455 enfants.
Voilà.
Des fois, on a un nombre un peu moindre. Tantôt, vous avez parlé de 5000. Évidemment, ils n'ont pas tous survécu.
Oui.
On le sait, parce que souvent, sur 12 enfants, une femme en perdait 5.
Oui.
Il y en a qui n'en ont pas perdu du tout, mais on sait aussi qu'il y a des femmes qui n'en ont pas eu, comme ça arrive dans toutes les sociétés.
Mais 4500
enfants là, en 10 ans.
Ça veut dire qu'on est
ça fait
presque
des
tous...
bébés.
Ben voilà, on est presque tous les Québécois francophones, plus ou moins issus, descendant d'une fille du roi.
Plus que moins, d'après moi.
Oui, hein?
Beaucoup, beaucoup. C'est difficile d'affirmer. Moi, je suis pas une spécialiste, puis je suis pas une démographe. Mais il me semble que pour toutes les personnes qui ont un nom francophone, qui ont un nom français. On a 9 chances sur 10 d'être descendante d'une fille du roi, pas juste une d'ailleurs, de plusieurs. Mm-hmm. Puis il faut chercher du côté de notre père, mais aussi de la lignée matrilinéaire. On peut arriver, moi j'arrive dans ma lignée matrilinéaire, c'est une fille qui est arrivée 9 ans avant les filles du roi. Mm-hmm. On peut se dire qu'elle n'a pas eu une vie plus facile, mm-hmm. ni pire ni meilleure. Mais ces femmes-là ont accouché de très nombreux enfants. Et leur fille, Yves Landry, qui a fouillé la question, dit que les filles des premières femmes ont eu encore plus d'enfants que leur mère qui arrivait de France.
En conclusion, Danielle Pinsonneau...
Déjà?
Eh oui, déjà. ces femmes, elles continuent de vous inspirer.
Très.
Pourquoi?
Ces femmes-là, je me rappelle une réunion où on était à un moment donné, puis il y avait quelqu'un qui nous faisait dire « Combien vous avez eu d'enfants? Puis vous, combien d'enfants? » Puis vous, combien d'enfants? Ça m'a un peu heurté, comme si c'est tout ce qu'on avait fait au monde en arrivant ici. On est venu mettre un monde au monde, c'est vrai. Mais les femmes ont donné tout ce qu'elles avaient en elles, pas seulement des enfants. Elles nous ont légué leur culture, leur langue, leur connaissance, leur savoir-faire. Elles nous ont tout donné, ce qu'elles avaient, ces femmes-là. Elles y ont laissé leur cœur au complet. Et nous, on a profité de toute cette manne. Je me dis, c'est un legs incroyable, inestimable. Puis moi qui adore la langue que je parle, quand je vois à quel point on la magane, puis que nos enfants, des fois, parlent plutôt anglais ou tortillent ce qu'ils disent, ça me fend le cœur. Je me dis, on devrait se péter les bretelles d'être descendants de femmes de cette trempe-là et avoir la fierté de garder ce qu'elles nous ont donné.
Danielle Pinsonneau, merci beaucoup. Merci.